France Inter. Pierre Veil, le 6-9 de l'été.
Et oui, en ce 15 août, jour férié, symbole du cœur des vacances, mais évidemment aussi une des grandes fêtes de la vie chrétienne à la gloire de Marie, c'est l'Assomption. L'occasion de revenir sur la situation de l'Église catholique en 2019. Christine Pedotti est l'invitée du grand entretien. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de la rédaction de Témoignages chrétiens, essayiste, intellectuelle catholique. Vous êtes dans les studios de nos amis de France Bleu, Haute-Normandie, Rouen. Vous avez publié au début de l'année, je le rappelle, Qu'avez-vous fait de Jésus, les silences coupables de l'Église chez Albin Michel, ou encore fin 2018, Jésus, l'homme qui préférait les femmes, toujours chez Albin Michel. Christine Pedotti, 2019, année chargée pour l'Église. D'abord, l'incendie dans la cathédrale Notre-Dame. Comment avez-vous interprété l'émoi provoqué par l'incendie de Notre-Dame? Est-ce que c'est le témoignage d'un attachement à l'histoire chrétienne de la France?
Je pense que c'est un attachement à l'histoire de la France. Au fond, au cœur de la France, il y a Paris. Au cœur de Paris, il y a Notre-Dame. Donc je pense que pour... la plupart des gens, la plupart des Français, et même au-delà d'ailleurs des frontières, il y a quelque chose comme un cœur battant de notre culture, de la civilisation occidentale, européenne, qui finalement a irrigué une grande partie du monde. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette si forte émotion. Moi, j'aurais un peu de mal à penser que c'est des sentiments exclusivement religieux qui ont généré cette émotion, ou du moins des sentiments religieux liés strictement au catholicisme, même si probablement il y a une dimension religieuse dans le fait que ces religions, on dit qu'une des origines du mot, c'est « qui relie », et qu'au fond, on se sent tous reliés à la mémoire, à notre histoire, au siècle passé, à travers ce monument exceptionnel.
Et ce débat sur la reconstruction, faut-il reconstruire Notre-Dame à l'identique? Qu'en pensez-vous?
Il me semble, moi, que les cathédrales, dans leur histoire, sont des êtres vivants au cœur des villes. Il y a eu un moment, par exemple, où il y avait des tas de constructions autour des cathédrales, et puis on les a dégagées pour qu'on puisse les voir. Les cathédrales ont été un peu des lieux de foire, hein, on vivait à l'intérieur. Aujourd'hui, ce sont les touristes qui y sont. Donc, en fait, ce sont d'immenses vaisseaux au cœur des villes, avec une vie intérieure. Pas seulement une vie cultuelle. Alors c'est aussi une vie cultuelle, parce que si on cesse de célébrer dans les cathédrales ce pour quoi elles sont faites, elles perdent leur âme, évidemment. Donc voilà, il faut permettre que tout ça vive, c'est-à-dire qu'ils vivent la mémoire de notre culture, mais ils vivent aussi la réalité vivante, religieuse, des catholiques qui s'y rassemblent. Donc voilà, c'est une grande page à ouvrir pour tous ceux qui vont, architectes et experts, décider de ce qu'on fait, si ça tient, parce qu'il faut quand même le redire, hein, on n'est pas sûr encore qu'elle va rester debout.
Mais cela étant, vous ne me répondez pas, vous souhaitez qu'il y ait des innovations dans la future architecture?
Alors,
qui sera...
Ma réponse est simple, c'est moi je suis originaire d'une autre cathédrale, celle de Reims. Ouais. Elle a été détruite au moment de la Première Guerre mondiale. Elle a été restaurée avec des moyens, la voûte en particulier, avec des moyens qui étaient les moyens les plus modernes de l'époque. Je crois que c'était une bonne idée. Je ne sais pas ce qu'on peut faire à Notre-Dame. Moi, je ne suis pas spécialiste, mais en tous les cas... l'idée qu'on en ferait un conservatoire et qu'on reconstruirait une forêt de bois à l'identique me semble une idée très bizarre. Maintenant, on peut faire une expérience et puis décider de reconstruire à l'identique. Mais je préférerais qu'on invente, et puis en particulier la flèche de Viollet-le-Duc. Après tout, c'était que du Viollet-le-Duc et on peut inventer autre chose aujourd'hui.
Christine Pedotti, alors les affaires de pédophilie, le pape, selon vous, a-t-il trouvé cette année les bons moyens pour lutter contre ce fléau avec la mise en place de structures de signalement immédiat, une modification de la législation interne de l'Église? Pour vous, c'est fini la culture du secret?
Alors, on espère que c'est fini, mais chaque jour, on a des preuves que ça ne l'est pas. Ça veut dire que c'est pas parce que le pape décide des choses que ça a des conséquences partout dans le monde. Au fond, on voit bien que dans des tas de pays, on se comporte comme on s'est comporté en France pendant un certain temps, en se disant que le vent du boulet allait passer à côté, hein, que la pédophilie, c'était un peu comme le nuage de Tchernobyl, que ça s'arrêterait aux frontières. Or, en fait, partout dans le monde, on s'aperçoit que ça fonctionne. Le pape lui-même, hein, il y a presque une année, écrivait une lettre terrible qui s'appelle la lettre au peuple de Dieu. C'était le 20 août, dans laquelle il accusait une culture systémique autour des abus. Pas tant des abus d'ailleurs que de leur dissimulation, le fait qu'en fait on ne fasse pas ce qu'il faut pour lutter contre ces abus et qu'on les couvre. Et on s'aperçoit que la raison d'église, hein, qui serait l'équivalent de la raison d'État, a fait que dans beaucoup de pays, on a couvert ce genre de choses. Les derniers cas sont des cas en Pologne, mais je veux dire, d'autres pays devront eux aussi faire la vérité. Pour ce qui est de la France, on voit que des mesures très décisives ont été prises par la conférence des évêques. Il y a une commission qui travaille, qui est la commission de Jean-Marc Sauvé. Et voilà, ça va, c'est en train d'avancer. Mais tous les cas, je pense que nos cultures démocratiques et de transparence aident l'Église à faire ce travail.
Mais vous dites, chaque jour, on a des preuves que cette culture du secret, ça continue. Ça veut donc dire, selon vous, que le pape peut prendre des décisions, on ne l'écoute pas. Et ce fléau se poursuit.
Vous savez, le pape n'est que le pape. C'est ça. Il n'est pas dans toutes les sacristies. Il n'est pas dans le cœur de chacun, de chaque évêque. L'Église catholique, c'est une immense machinerie avec 1,2 milliard personnes, avec 5 000 évêques, avec des cultures locales qui sont très différentes les unes des autres. Et évidemment, ça ne se passe pas de la même façon, ne serait-ce que au Québec, aux États-Unis, en France, en Irlande, en Pologne, pour ne pas parler des pays émergents, des pays qui ont été colonisés, dans lesquels on ne sait rien.
Il y a aussi eu cette année ces révélations sur ces religieuses violées par des prêtres, un documentaire qu'on a tous vu sur Arte, et vous dites que c'est le résultat d'un concept avilissant de la femme dans l'Église. Quel changement souhaitez-vous pour les femmes au sein de l'Église, Christine Pedotti?
Alors, moi je pense que la question des femmes dans l'Église est une question absolument centrale et pas du tout une question marginale et quasiment décorative. Il me semble qu'il y a un immense progrès dans nos sociétés qui sont de faire émerger les femmes comme des êtres humains, responsables, revêtus de droits, d'intérêts, d'intelligence, etc. Et que dans mon Église, je le dis avec désolation, on n'a pas encore bien compris ça. Donc il faut faire progresser ça parce qu'on voit bien. Et ça, je pense que ça a bouleversé un nombre considérable de catholiques, y compris des catholiques très loyalistes, sur ce qui s'est passé autour des religieuses, parce que les abus sur les religieuses, c'est un côté monstrueux, parce que d'une certaine façon, ça accuse une vision très indigne des femmes qui sont considérées comme au fond pas totalement des êtres humains à part entière. Ça m'arrache la bouche de dire ça, hein. Mais on voit bien qu'il y a ça au fond d'une culture cléricale,
mais quel
exclusivement masculine.
Quel changement vous souhaitez au sein de l'Église pour les femmes? Et est-ce que vous croyez que les choses dans ce domaine-là peuvent bouger?
Alors, je vois bien la question que vous me posez, c'est au fond, est-ce qu'il faut qu'il y ait des femmes qui deviennent prêtres?
Voilà.
Le pape a une autre réponse avec laquelle je suis d'accord, qui est, il faut pas que les prêtres soient dans un entre-soi clérical, c'est-à-dire entre eux. Alors, il faut d'abord poser la question sur qu'est-ce que c'est que les prêtres et comment ils vivent, et puis ensuite se demander qui doivent être les prêtres. Moi, je pose des questions. Des prêtres aujourd'hui, ce sont aujourd'hui exclusivement des hommes célibataires qui s'engagent pour toute la vie et qui s'engagent à plein temps. Or, en fait, on peut faire varier tout ça. Peut-être pas forcément des hommes, peut-être pas forcément des hommes célibataires, peut-être pas pour une vie entière, peut-être pas à plein temps. On a plein de possibilités différentes pour faire les choses. On sortira de l'impasse sur la question des femmes en faisant des femmes prêtres me semble être une mauvaise réponse, ou du moins une réponse pas suffisante, même si c'est sans doute une partie de la réponse.
Christine Pedotti, le projet de loi de bioéthique, est-ce que vous soutenez la PMA pour toutes les femmes en couple ou seules?
Alors, il me semble que c'est une question qui est assez compliquée, sur la PMA, parce que moi je suis toujours très frappée quand on dit il y a un vrai père, une vraie mère, quand on est dans des situations non homologues, hein, où on va chercher un sperme, des gamètes, etc. ailleurs, et que ça pose des problèmes de filiation. Donc en fait, moi je suis assez sensible à l'idée que il faut permettre aux enfants d'avoir accès à leur origine, à tous les enfants, pas seulement à ceux qui sont issus de PMA dans un couple homosexuel, mais aussi dans les couples hétérosexuels. Mais en l'occurrence, je ne suis pas certaine que y ait une différence substantielle entre être, des enfants aimés dans une famille homoparentale ou des enfants aimés dans une famille hétérosexuelle. À partir du moment où la PMA existe et que on a des femmes qui vont en dehors de la France faire ce genre de choses, il me semble juste d'avoir une loi d'accommodement qui permette que ça ait lieu en France.
L'Église est hostile à ce texte. Comment interprétez-vous ce refus par l'Église de l'évolution de notre droit que vous venez d'évoquer ?
En fait, l'Église, vous savez, elle est contre la PMA pour les couples hétérosexuels. C'est une chose qu'on ne rappelle pas suffisamment. D'une certaine façon, le problème, c'est que elle dit aussi des choses sur l'homosexualité qui sont très peu audibles et, à mon avis, malvenues. Elle n'est pas claire sur ce sujet-là. Et du coup, on confond les deux. Mais de fait, la position officielle de l'Église, c'est d'être contre toute forme de PMA, y compris pour des couples hétérosexuels. Malheureusement, aujourd'hui, la bataille qui semble vouloir être menée a une couleur homophobe qui me désole.
On va aller au standard 01 45 24 7000. Des questions pour vous, Christine Pedotti. Emmanuel à Amiens, bonjour. Emmanuel.
Oui, bonjour, merci de prendre ma question.
Allez-y.
À l'heure où le pape demande à ouvrir les églises, à s'ouvrir au monde, je suis assez surpris de voir que la place de la femme est régressive dans certains endroits. Dans plusieurs évêchés, on voit l'arrivée de certaines communautés, comme la communauté Saint-Martin par exemple, où les filles maintenant n'ont plus le droit de servir la messe. Et elles sont réduites à avoir des petites capelines pour suivre les gens et faire des tâches subalternes, comme si la place de la femme n'était pas une place prépondérante et fondamentale, alors qu'on est le 15 août et que la femme a une place fondamentale dans l'Église catholique. Et là, on a l'impression qu'il y a une régression. Et j'en suis assez choqué pour quelqu'un qui a, comme moi, une quarantaine d'années. Voilà, merci.
Merci d'avoir témoigné, Emmanuel, sur ce constat que fait Emmanuel. Christine Pedotti.
Hélas, c'est vrai. Vous savez, moi j'ai été fondatrice d'un truc qui s'appelle le comité de la jupe, dans lequel on travaille sur la dignité des femmes, et on a fait une cartographie des usages autour justement des petites filles d'hôtel, etc. Et on voit que effectivement, on est dans un phénomène de régression. Alors ça, je pense que c'est assez facile à expliquer sociologiquement. C'est que il y a une baisse de la présence de l'Église catholique dans la pratique religieuse en France, et du coup il y a une forme de réaction où en fait on se dit, ben, on va faire comme avant, parce qu'avant il y avait du monde, alors on va faire tout comme avant. Et tout comme avant, c'est il n'y a que des garçons autour du cœur et autour de l'autel. Et ça, c'est vraiment un signe de très mauvaise santé pour l'Église catholique.
Alexandre à Paris, écoute France Inter. Bonjour Alexandre.
Bonjour. Est-ce que vous ne trouvez pas que face aux affaires qui secouent l'Église, ce soit un peu déplorable que les fidèles désertent l'Église? Et est-ce que vous ne pensez pas que l'Église fait un peu de la politique là maintenant?
Alors, Christine Pedotti, réponse à Alexandre.
Alors c'est un peu compliqué parce que je veux dire l'Église c'est deux choses. C'est d'une part un système hiérarchique, c'est-à-dire un pape, des évêques, des curés, et puis c'est aussi ce qu'on appelle le peuple de Dieu, c'est-à-dire les gens qui se disent catholiques. Ces gens-là dans l'Église, il n'y a pas de modèle démocratique à l'intérieur de l'Église. Donc au fond les catholiques ils ont pas beaucoup de moyens de s'exprimer, sinon de voter avec leurs pieds, c'est-à-dire en arrêtant d'aller à la messe, ou de voter avec leur portefeuille en arrêtant de signer des chèques pour le denier de l'Église. Mais par ailleurs, la hiérarchie, elle peut faire de la politique. Les évêques ont pris position, en particulier contre un certain nombre de lois de bioéthique, etc. Quand on regarde le vote des catholiques, on s'aperçoit que ils votent un peu à droite, mais finalement, aujourd'hui, plutôt moins à droite qui ne l'ont fait. En tous les cas, ils votent plus pour Emmanuel Macron, par exemple.
Donc, c'est ce qu'a révélé un sondage IFOP. Oui.
Voilà, tout à fait. Alors voilà, on s'aperçoit que finalement, les catholiques sont pas forcément ce qu'on pensait, et que quand on les a vus beaucoup dans la rue autour de la manif pour tous, bah, c'était peut-être pas tous les catholiques. Je rappelle d'ailleurs pour mémoire qu'il y a toujours eu 40% des catholiques pratiquants qui étaient pour le mariage homosexuel. On les a pas beaucoup entendus. Voilà. Tout ça, c'est compliqué. Puis en France, la politique et la religion, c'est toujours compliqué. Le modèle de laïcité française est toujours un modèle très délicat à manier.
Christine Pedetier, est-ce qu'il y a un décalage, selon vous, entre les positions du pape François, qui défend, par exemple, l'accueil des migrants, et les catholiques en France ou en Europe ?
C'est toujours compliqué de dire les catholiques, parce qu'en fait, il y a des catholiques. Et il y a à la fois des catholiques qui ont une préférence, je dirais, pour les engagements sociaux autour des migrants, etc. Il faut savoir que dans la plus grande partie des organisations qui luttent pour l'accueil des migrants, il y a beaucoup, beaucoup de chrétiens et beaucoup, beaucoup de catholiques. Et puis, il y a aussi d'autres catholiques qui, eux, préfèrent choisir les batailles autour de la famille plus traditionnelle. C'est assez rare que les mêmes catholiques fassent les deux. Donc en fait, bah, y a des catholiques sur tout le spectre des usages, et on voit bien que, en tous les cas, l'accent que met le pape François sur la fraternité, la bienveillance et l'accueil de l'autre, qui de mon point de vue sont des valeurs très très évangéliques, font un peu grincer des dents du côté des catholiques, on va dire, plus identitaires.
Au Perreux-sur-Marne, Guylaine est avec nous ce matin, elle écoute France Inter, bonjour.
Oui, bonjour. Voilà la question à laquelle j'aimerais que votre invité réponde, parce que je me pose cette question depuis longtemps. Donc, la religion catholique refuse toujours que les femmes exercent la prêtrise. Je voudrais savoir quels sont ses arguments.
Christine Pedetti.
Alors, les arguments qui sont invoqués, ordinairement, c'est que Jésus n'aurait choisi que des hommes. Moi, c'est un argument que je réfute en faux, puisqu'en fait, Jésus n'a pas choisi de prêtre, il n'y a pas de prêtre choisi par Jésus. Néanmoins, la tradition très ancienne de l'Église a fait qu'on a choisi exclusivement des hommes pour devenir prêtre. Donc, on est plutôt devant un fait de tradition. Le débat, c'est de dire, depuis toujours, ou presque, on ne choisisse que des hommes, est-ce que c'est un fait lié à la culture, ou est-ce que c'est un fait lié structurellement, entre guillemets, au choix de Dieu? Et c'est là-dessus qu'on se bat et qu'on débat. Précisément, moi, je prétends que c'est un fait culturel et que c'est un fait qu'on pourrait changer. Mais le principal argument, c'est de dire, c'est Dieu qui le veut comme ça.
Je résume quelques courriels qu'on a reçus à propos de la position de l'Église catholique face à la PMA. Est-ce qu'on peut dire, c'est ce que nous écrit par exemple Michel, qu'il y a une incompréhension de la sexualité humaine par l'Église catholique ? Christine Pedetti.
Alors, je crois que oui. Et c'est très paradoxal. Moi, j'ai mis très longtemps à m'en rendre compte. C'est qu'au fond, nos contemporains, et ils ont raison de penser comme ça, considèrent que la question de la sexualité, c'est une question de la qualité de la relation entre deux personnes. Et l'Église catholique, elle, pense que la sexualité, ça se juge en fonction d'une vertu, qui est la vertu de chasteté ou de continence, c'est-à-dire le fait de ne pas céder à la pulsion. Et cette divergence dans la façon de comprendre la sexualité dans le monde aujourd'hui crée un immense fossé entre ce que dit l'Église catholique et ce que pensent nos contemporains.
Au Standard, on va tenter de retrouver, si c'est possible, Alain qui est à Marseille. Est-ce qu'Alain est en ligne avec nous? On essaye de le joindre, mais pour l'instant, il n'est pas avec nous. Pas mal de questions pour vous, Christine Pedetti, à propos de l'ambiance actuelle au sein de l'Église. Est-ce qu'on peut dire, c'est Isabelle, est-ce qu'on peut dire qu'actuellement dans l'Église, il y a deux tendances? Ceux qui sont pro-pape François et les anti-pape François.
Je pense que c'est encore plus compliqué que ça.
Est-ce que c'est un pape qui crée de véritables débats par son attitude au sein de l'Église, notamment lorsqu'il prend des positions politiques sur les migrants? Tout récemment encore, il se disait préoccupé, je le cite, par le souverainisme et le populisme.
Oui, alors le pape François, il a des positions extrêmement radicales, évangéliques sur la question des migrants. En même temps, le pape, c'est pas lui qui fait les politiques migratoires, c'est lui qui nous incite, nous les catholiques, à avoir une qualité d'accueil. La bataille que mène le pape François, elle l'amène à l'intérieur de son propre gouvernement, qui s'appelle la Curie, à Rome, dans lequel il rencontre des hostilités extrêmement grandes. Parce que vous savez, la Curie, qui est l'administration du pape, on croit qu'elle sert le pape, en fait elle sert la papauté. Ça veut dire qu'elle sert ce pape, et puis elle servira le pape d'après. Aujourd'hui, le pape François a fort affaire avec des oppositions extrêmement violentes dans sa propre curie. On vient encore d'en voir la trace, puisque il y a un synode qui va se passer en Amazonie cet automne, qui voudra observer de très très près, dans lequel il y a un certain nombre de propositions qui sont faites pour que change un certain nombre de choses dans l'organisation de l'Église, y compris sur le célibat des prêtres et peut-être sur la place des femmes. Et là, c'est une bataille dans laquelle, à l'intérieur même du gouvernement du pape, à Rome, dans la Curie, il y a une bataille farouche qui est menée.
Courriel encore, Lilian, l'autorité morale de l'Église est-elle durablement touchée par ces affaires de pédophilie ?
Il y a un vrai problème, c'est que l'Église catholique, depuis une cinquantaine d'années, a pour l'essentiel fait porter son message sur, on va dire, la morale sexuelle et familiale. Et donc, elle est d'autant plus impactée quand, en fait, ce sont sur ces questions-là qu'elle est mise en cause et qu'elle-même n'est pas, je dois dire, très propre sur ces questions-là. Donc, d'une certaine façon, ça décrédibilise son message. En l'occurrence, quand le pape François déplace la question et dit être un chrétien, c'est aussi vivre les valeurs de fraternité et d'accueil, d'une certaine façon, il recrédibilise la parole évangélique. Mais quand, en fait, on se bat sur la question de la famille, récemment, le cardinal Pell, cardinal australien qui est aujourd'hui en prison pour avoir abusé des enfants de cœur, et qui nous annonce qu'il est très dubitatif sur ce qui va se passer sur l'éventuelle ordination d'hommes mariés en Amazonie, je le trouve mal qualifié pour aborder ce genre de questions. Et c'est le sentiment de tous nos contemporains.
Christine Pedotti était l'invitée du grand entretien sur France Inter, directrice de la rédaction de Témoignages chrétiens. Merci beaucoup et bonne fête de l'Assomption. Merci beaucoup.
Merci.